Bienvenue à Contact établi, une expérience radiophonique de Franco-Presse où se rencontrent des francophones de partout au pays. Dans cet épisode, de Edmonton à Ottawa, un voyage entre l'art et l'engagement.
Est-elle Côté?
Joanie Fouguier.
Est-elle Côté, établie en Ontario depuis l'adolescence, entrepreneur sociale et solidaire, elle est motivée par l'aide et le développement pour le progrès de la société. Joanie Fouguier, née au Cameroun et établie en Alberta. Elle est la présidente de l'association étudiante de la Faculté Saint-Jean. Sa motivation? Donner une voix aux plus vulnérables.
Finalement, en francophonie canadienne, j'entends des gens qui parlent de plaidoyer. J'entends ce mot-là en Afrique, un peu partout en Amérique latine, mais chez nous, c'est pas un mot. On parle de revendication, de pression. Mais le plaidoyer, mon Dieu, que ça me parle parce que je suis dans la même logique que toi. Et qu'est-ce qui t'interpelle?
En fait, j'aime bien le fait que tu dis revendiquer et plaidoyer parce que je pense qu'il y a une très grande différence. Aussi, je fais une distinction entre peut-être la francophonie et la francophonie plurielle. Et je pense que du coup, étant immigrante, femme africaine, qui parle français, moi, je m'identifie plus à cette francophonie plurielle. Parce que quand on parle de revendiquer, je crois que ce plaidoyer, peut-être avant, a toujours été fait par ceux qui ont habité ici pendant des siècles, ceux qui vont rattacher leur plaidoyer, en guillemets, par rapport à l'histoire. Par contre, ça ne reflète pas l'expérience de plusieurs personnes de l'expression française au Canada, comme mon expérience. Alors, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut plaidoyer parce qu'il y a encore tellement d'expériences qu'on doit être en mesure de mettre de l'avant et parler un peu à propos de cela. Ouais.
C'est pour ça que moi aussi, ça me rejoint. C'est que j'ai toujours eu un malaise de juste parler, de revendiquer. On n'est pas juste là pour cogner à une porte puis chialer. Quand on a un plaidoyer, c'est parce qu'on est capable de faire le point, de se regarder dans le miroir, de nommer les vraies choses, de parler vrai, comme mon ami Chaco Chérif disait, mais aussi de proposer, tu sais, comme c'est d'une logique là, de proposer aussi et c'est pas juste de revendiquer pour revendiquer. Puis j'aime bien que de voir quelqu'un comme toi qui commence à t'impliquer à l'université, dans la communauté, tout ça, puis tu joues des rôles de leadership, donc tu as une influence dans le langage, dans les concepts qui vont être véhiculés. Ça me fait du bien, en tout cas. Moi, je veux juste te dire ça, là. Il y a plein d'étudiants et d'étudiantes à l'université ou au collège qui choisissent de s'impliquer puis de jouer un rôle de leadership, ils veulent changer quelque chose, ils veulent proposer. Moi, je n'ai pas été un choix. Hein. Moi, je suis arrivée en Ontario pas aussi jeune que toi, en francophonie canadienne, mais je suis arrivée dans une école où est-ce que je ne parlais pas anglais et mes livres, moi, étant en anglais, pas les livres de français, mais les livres de maths, chimie, physique. Imagine quand tu te débrouilles en anglais, tu es capable de demander quelques petites choses, tu es capable d'aller au magasin et d'acheter des choses, mais de parler chimie en anglais, là, hey, hein, c'était l'enfer. Et après un an, tout d'un coup, on nous disait que notre école ne serait plus une école francophone. Il y avait un risque qu'elle devienne une école soit d'immersion ou anglophone. Puis tu vois, moi, c'est comme ça que mon engagement a parti. C'est que c'était comme si, hey, vous m'avez déjà enlevé tous mes amis, là. En venant en Ontario, là, c'était comme si je venais mourir en Ontario français, tu sais, quand tu étais adolescente. Puis là, tu arrives ici, puis là, vous allez m'enlever la petite communauté que je viens de me bâtir en dedans d'un an. Je te mens pas, c'est comme un spring, hein. J'ai jamais même pensé à être à la tête, mais je me suis retrouvée porte-parole d'une lutte. À mobiliser l'école, à devenir présidente de l'école, puis à ne pas parler anglais, mais être obligée de faire des entrevues au Citizen, qui est le plus grand journal anglophone à Ottawa, puis à jargouiner, mais surtout à faire un plaidoyer par rapport à maintenir une école. Tu vois, moi, c'était pas dans nos gènes, hein? On ne s'est pas battu pour avoir les écoles au Québec, mais en arrivant ici, c'était tout d'un coup, je découvrais ce que c'était avoir une lutte identitaire. Puis moi, mon engagement, ça a été comme ça. Puis toi, ben, tu aurais eu le choix de juste te concentrer sur tes études et tu as choisi de te taper. Là, j'ai même compris que tu es dans deux rôles de leadership assez importants. Donc, comment tu gères ça? Puis qu'est-ce qui a provoqué ton choix? Qu'est-ce qui te dit à un moment donné, ben, j'ai pas le choix, là. J'ai le goût de me lancer, j'ai le goût de jouer ce rôle-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur?
Oui, alors, depuis un bas âge, mes parents sont le genre d'aider les autres qui n'ont peut-être pas le moyen de s'aider par soi-même ou représenter les sans-voix, comme on aime bien dire. Alors, c'était toujours un peu là dans mon un passage de voir comment aider les autres. Alors du coup, j'aime bien aider les autres. Et j'aimerais dire que à cause de peut-être un certain privilège que j'ai eu en immigrant ici, je croyais que c'était un peu mon devoir d'être en mesure d'aider peut-être d'autres. Alors dès mon arrivée à l'université au campus Saint-Jean, j'aime aussi juste m'impliquer. Alors, j'étais que, OK, qu'est-ce qu'il y a ici? Je me rappelle, je vivais en résidence en première année et il y avait les élections pour l'association résidence du campus Saint-Jean. Alors, j'étais que, pourquoi pas? Et c'est après cette année-là, j'ai commencé à voir un peu les différents clubs. Il y avait l'entraide universitaire mondiale du Canada. C'est un club qui regroupe le parrainage pour les étudiants réfugiés. Alors, je me suis présentée au poste vice-présidente finance et du coup, je me suis placée dans cette compréhension un peu de voir être étudiant réfugié international, c'est d'abord pas la même chose parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui croient que c'est la même réalité, mais ce n'est pas. Et maintenant, l'étudiant réfugié qu'on a eu à parrainer, c'est un de mes très bons amis maintenant. Et du coup, je voyais juste que si j'ai certaines qualités de leadership qui peut être en mesure d'aider les autres, pourquoi pas le faire? Moi, j'ai un très grand privilège ici. Alors du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un peu mon devoir. Alors je dis que pourquoi pas? Pourquoi pas aider les autres? Et maintenant, avec le nouvel poste que je viens d'acquérir, avant, j'avais peur pour être honnête. J'étais comme, oh, maintenant, c'est toute l'université de l'Alberta. Je ne sais pas si je suis prête, mais il y a encore des combats à lutter. Il y a encore des personnes qui ne sont pas représentées. Alors, j'ai dit que pourquoi pas. Je peux sympathiser avec eux jusqu'à un certain point et je me suis lancée là-dedans. Et j'adore, en fait. J'adore représenter les autres. J'adore m'assurer que tout le monde a une voix à la table. Et c'est cela que je fais.
Dans le développement, j'ai toujours eu, puis ça fait à peu près une trentaine d'années, j'ai toujours eu un souci de penser au développement de façon équitable, de façon juste. Parce que je vais te donner un exemple. Quand je me suis retrouvée directrice générale au Conseil de la coopération de l'Ontario, je comprenais pas ça que, tu sais, plein de monde venait à nos ateliers de formation pour améliorer leur sort, dans le fond, créer leur emploi, créer leur coopérative. Il y avait même des fois majoritairement des femmes, puis il y avait des hommes à nos formations. Bien, à la fin, les hommes agissaient, puis les femmes retournaient à la maison. Puis je me suis dit, mon Dieu, s'il y a quelque part, il y a une forme d'entreprendre qui devrait parler aux femmes parce que c'est collectif, c'est collégial, c'est moins compétitif, mais on peut quand même gagner des sous. C'est là que j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu sais, d'amener des femmes autour de la table, j'en étais une, donc déjà, ça facilitait la conversation. Puis, tu sais, qu'est-ce qui ne marche pas dans la formation qu'on offre? Tu sais, le BABA de développer une coop. Puis, en jasant, on s'est rendu compte que ben, n'importe qui aide au développement d'entreprise, on oublie la réalité des femmes, quel que soit leur âge. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont dire que l'économie, c'est pour elles ou qu'elles comprennent. Pourtant, on comprend, on gère des budgets. Aussi jeune qu'on soit, on gère notre budget à l'école, on gère plein de choses. Mais, puis, donc, il fallait qu'elles développent leur confiance en soi. Fallait, puis, sais-tu quoi? En jasant ensemble, on a redessiné la trajectoire, en plus de toutes les formations, la trajectoire sur comment les femmes vont développer des coopératives. Bien, cette expérience-là que j'ai vécue dans les années 90, en questionnant des femmes, puis en l'ayant vécue moi aussi, mais, tu sais, des fois, quand tu vis quelque chose, là, tu ne sais pas c'est quoi la barrière pour toi. Mais quand tu facilites une conversation, puis là, j'entendais les femmes dire, voici nos barrières. Hey, je me suis dit, c'est ça que j'ai vécu, moi. C'est pour ça qu'à un moment donné, je frappais des murs. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours pensé dans tout mon travail à l'importance de ne pas appliquer la logique de dire on va appliquer la même théorie pour tout le monde. Non, ça, c'est pas, à mon avis, ça ne marche pas. Encore moins homme-femme, encore moins personne vulnérable dans n'importe quel contexte. Il faut vraiment s'adapter. Puis aujourd'hui, tu sais, avec toute ma feuille de route, je me retrouve dans un réseau. C'est vraiment un cadeau du ciel, Joanie, dans un réseau qu'on appelle les réseaux des entrepreneurs sociale, internationale, femme du monde, ça s'appelle Quartier du monde. Et depuis 8 ans, on marche ensemble, des femmes de la Bolivie, de la Colombie, de Paris, de la Belgique, du Maroc, Sénégal, Mali, il m'en manque un peu, puis le Canada. Et on a co-créé un guide, puis on a tellement appris ensemble, puis on a tellement co-construit ensemble, puis il y a des milliers de femmes et hommes et familles qui ont amélioré leurs conditions de vie. Donc, cette façon de faire avec les femmes, de nourrir le pari pour, par, pour, avec, pour vrai. Tu sais, il y a bien du monde qui disent empowerment, tout ça. Mais de le faire pour vrai, puis là, que tu dis ça marche pour vrai, c'est le fun. Mais je t'avoue, j'ai fallu que je sorte de ma petite francophonie canadienne pour aller voir ailleurs si cette solidarité-là existait pour dire, OK, ça existe pour vrai. Revenons chez nous, puis je vais le vivre. Francophonie plurielle, c'est quoi pour toi? Parce que moi aussi, c'est un mot que j'utilise depuis 25 ans. Pas nécessairement sûr qu'on a la même définition d'un bout à l'autre du pays ou d'un bout à l'autre du monde, mais comment toi, tu le définis?
Oui, en fait, je peux commencer ma réponse, en fait, par lier un peu avec ce que tu disais avec la solitude entre, solidarité, pardon, avec, entre les femmes. J'entends ton parcours et ça me rend tellement heureuse, juste parce que j'adore voir cette solidarité entre les femmes et surtout dans n'importe quel contexte, avec n'importe quelle race, religion, etc. Je pense que le monde, c'est ce qu'on a besoin de cela. J'espère que c'est le futur et c'est l'avenir de notre société. Et en fait, pour décrire un peu ma francophonie ou la définition de francophonie plurielle, je peux bien utiliser l'exemple de mon exécutif à l'AEFSJ au campus Saint-Jean. C'est un des exécutifs du campus Saint-Jean le plus diversifié qu'on a eu. Nous avons, je crois, nous sommes 6 femmes au sein de l'exécutif, avec bien sûr moi qui est à la tête en tant que présidente, et nous avons des membres de l'international, de l'immersion, francophones de souche, un peu de partout, racialisés, etc. Et en fait, c'est ce que moi j'ai défini par la francophonie plurielle. La francophonie plurielle, pour moi, c'est une francophonie qui accepte tout le monde, peu importe le niveau de langue, peu importe l'accent, peu importe d'où tu viens ou tes origines. Je crois que ça doit être en mesure de créer une certaine harmonie entre tout le monde, parce que moi, j'ai eu plusieurs crises identitaires en ce qui concerne mon identité francophone. Du coup, en arrivant ici, je croyais, OK, je parle le français, le Canada, c'est un pays bilingue, je dois être correcte. Mais là, boum, je comprends que, oh, il y a cette situation minoritaire. Et alors, j'essaie de m'inclure un peu dans cette situation minoritaire avec les autres francophones. Par contre, je comprends que, oh, peut-être que c'est pas tout le monde qui doit m'accepter parce que je suis racialisée, je suis originairement du Cameroun, je suis pas de souche encore. Et j'ai parlé à mes amis et à mon groupe il y a comme quelques jours où je disais que vous êtes ma francophonie, parce que c'était malheureusement quand j'étais avec peut-être des étudiants d'immersion ou des autres individus d'expression française racialisée que je me suis sentie certaine et sûre de ma identité francophone et de cette langue française. Et je crois que c'est assez beau, mais ça veut dire aussi que nous avons tellement à faire en ce qui concerne l'harmonie et cette société, s'assurer que tout le monde soit ensemble. Alors, je parle un peu beaucoup maintenant, mais c'est vraiment juste une francophonie ouverte, et c'est ça.
Oui. Puis, je te rejoins encore là à 100%. On parle d'ouverture, on parle d'inclusion. Puis en même temps, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont la chanson. Hein. Il y a beaucoup de monde qui en parle. Il y a beaucoup de monde qui disent on est ouvert, on a les portes sont ouvertes. Puis c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. Et puis tu l'aurais senti. J'ai senti que tu avais ressenti là, c'est un peu cette exclusion-là dans ton arrivée puis dans ton parcours. Puis je pense que la communauté francophone qui se dit inclusive, puis même entre toi et moi, par boîte à bois, là, une francophonie qui elle n'a pas le choix. Si elle veut survivre, avant toi et avant moi, il y a plein de monde qui se sont battus pour bâtir des écoles, amener le gouvernement en cours pour avoir des collèges, avoir le campus Saint-Jean, avoir maintenant l'Université de l'Ontario français. C'est comme, il y a du monde là, qui ont travaillé fort, et présentement, pour différentes raisons, vieillissement de la population, diminution des bébés, du nombre de bébés dans les familles, toutes sortes de choses qui font que ces institutions-là, qu'on a pris le temps à investir du temps et de l'argent et des ressources pour les construire, ben vont se perdre. Et là, il y a plein de monde dans le monde qui cherche des espaces pour bien vivre, mais je pense qu'on a de la job à faire en dire les mots et agir pour vrai. Je pense qu'il y a une volonté dans l'ensemble de la francophonie canadienne d'être réellement ouvert et inclusif. Moi, je me rappelle à ton âge, justement pas là, puis hey, j'étais arrivée à 14 ans, ouais, en Ontario français, j'ai jamais eu l'étiquette de quelqu'un qui était étranger. Parce que les étrangers, ce n'était pas juste les Noirs qui arrivaient d'Afrique. Hein. Les étrangers, c'était les Québécois, c'était les gens qui arrivaient de la France, c'était, ça pouvait être aussi des Blancs. Puis moi, j'entendais des fois dans des réunions du monde qui faisait 40 ans qu'ils étaient en Ontario français, puis on leur disait, mais toi, tu n'es pas franco-ontarien. Hein. Hey, ça faisait 40 ans qu'ils s'investissaient ici. Là. Tout, ils ont bâti, ils ont eu leurs enfants, les enfants vont à l'école, puis on leur disait ça. On l'entend moins, ça, ou plus du tout. Et donc, c'est une évolution, mais ça demeure que ça peut déranger le choc des cultures pour certaines personnes. Puis je pense que de plus en plus, ça change. Puis c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai confiance. Je t'avoue, dans les 30 dernières années, je vois l'évolution. Pas assez vite à mon goût, entre toi et moi, mais j'ai appris en développement qu'il faut donner le temps au temps. Et bon, ben, ça arrive. Là. Puis il y a plein de jeunes comme toi. Ce n'est plus un langage qu'on vous apprend. C'est un langage que vous avez dans votre ADN. Donc, ouais. Vous autres, là, c'est, il n'y a pas de condition. Là. C'est pas si tu fais ça, ça va être à condition de. Non, non, c'est ça que tu veux. Et c'est ça que tu vas avoir. Puis ce qui est le fun, c'est que vous êtes des milliers. Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est dans votre ADN?
Oui, je fais partie de la communauté, mais ça ne veut pas dire que mon apprentissage arrête là. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre et on peut là peut-être aller un peu en ce qui concerne tout ce qui est affaires autochtones. Même avec cela, je crois que nous avons tous à s'éduquer parce que je crois que la tendance devient « OK, je ne connais pas, je ne suis pas partie de cette communauté, alors je vais aller à n'importe qui est peut-être autochtone, premier peuple, et dire « OK, qu'est-ce qui se passe? » Qu'est-ce que c'est? Mais souvent aussi, vous voyez le terme en français, on parle de « tokenism », je ne sais pas, la traduction vite. Et c'est inconfortable parce que je me suis retrouvée dans cette situation en tant que femme africaine où je serais toujours la seule dans une salle où on va dire « OK, qu'est-ce qui se passe? Comment cela se passe? » Par contre, mon expérience n'est pas synonyme à l'expérience de tous les Africains ou toutes les femmes ou femmes africaines. Alors du coup, je crois qu'il faut initier ces conversations d'abord par soi-même, faire la recherche et peut-être engager encore, comme tu dis, le faire ensemble, avoir les conversations ensemble au lieu de juste dire « OK, dis-moi tout ce qu'il y a à faire ». Et je crois que surtout dans un contexte francophone où n'importe qui s'exprime comme expression française, c'est notre devoir. Je crois, oui, d'abord, c'est le devoir de tout le monde au Canada, mais surtout pour nous parce que je crois avec l'histoire des francophones au Canada, on a tendance à dire que notre expérience, tout ce qui a eu à faire avec l'histoire est synonyme à l'expérience des peuples autochtones. Et moi, je dis non complètement. Ça me rend inconfortable quand j'entends cela. Je n'aime pas, ça me dégoûte en fait un peu. Juste parce que même le fait que je peux faire ce plaidoyer et je peux dire que, oh, sauver notre langue, c'est parce qu'au Canada, dans notre État canadien, c'est une langue officielle. Alors, c'est pour ça que je peux dire que, oh, sauver ma langue, parce que j'ai ce droit quand même. Par contre, il y a tellement de peuples encore autochtones qui n'ont pas cette chance. Alors, je crois que c'est notre devoir de s'assurer que lorsque nous faisons notre plaidoyer, il faut penser aussi les peuples que nous avons peut-être exploités et que nous avons heurtés, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour eux? Alors, lors de cette année, avec le campus Saint-Jean, l'administration et l'AUFSJ, on s'est assuré, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye de voir OK, qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour être en mesure de soutenir et se rappeler de l'histoire tout en s'assurant qu'on s'éduque en même temps. Mais ce n'est pas jusqu'à ce que j'arrive à l'université et que je commence peut-être à comprendre ma francophonie en tant que personne racialisée, en tant que femme, que là, j'ai compris, OK, comment est-ce que cette francophonie, en fait, que je plaidoie tant, peut affecter d'autres groupes. Alors, du coup, je crois que c'est pour ça qu'il faut avoir ces conversations. Il faut aussi avoir peut-être ceux qui ont des différentes... des différentes origines, les expériences dans la francophonie, à la tête de ces organisations, à la tête de ces conversations, pour être en mesure de comprendre un peu les expériences des non-voix, ceux qui ne sont pas à la table.
Mais ça demeure que tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas là, une variété de personnes avec une variété de vécu pour explorer les pratiques, pour que les pratiques soient, pas juste la francophonie plurielle, il faut que nos pratiques soient plurielles, qui embrassent, qui soient sur mesure pour mieux répondre aux besoins des femmes, de tous les genres, de tous les styles. Il y a aussi les pauvres dans notre communauté et ils ne vont peut-être pas à l'université, mais ils font partie d'une majorité de gens dans nos communautés respectives. En tout cas, ceci dit, tu sais, quand tu as toujours le questionnement de dire comment faire mieux tout le temps, on a un devoir, à mon avis, si on est impliqué dans le développement de quelque façon que ce soit, dans n'importe où dans la société, de toujours se questionner, c'est-tu la bonne approche? C'est-tu la bonne façon de parler à ce monde-là? C'est-tu la bonne façon de les approcher? Puis le mot ouverture, comme tu dis, il faut que ce soit un O majuscule. Puis ça peut nous déranger parfois, mais en même temps, ça va juste nous amener beaucoup plus loin. Hey, Joanie, petite question, parce que c'est une question que les chercheuses nous ont posée. Combien de fois dans ta vie, parce que là, j'ai comme 3 fois ton âge, tu t'es fait dire que tu avais des accents, toi?
Oh, mon Dieu, tout le temps. tout le temps, par ceux qui sont du Cameroun, de la francophonie.
Quand tu retournes au pays, tu as un accent?
Oui, alors du coup, mon français, j'aime dire que j'ai tous les accents, en fait, parce que mon français, j'ai appris vraiment français ici à Calgary, en Alberta. Alors, plusieurs de mes enseignantes étaient du Québec, en fait, ou étaient de l'Alberta. Alors, mon français, je comprenais certains un peu des expressions québécoises, même souvent acadiennes. Alors, je connaissais un peu cela. Et maintenant, je retourne à la maison, je commence à dire un peu mon français et mes parents sont là comme... Mais t'es du Québec maintenant, je sais que quoi, j'ai jamais compris cela, j'étais un peu plus âgée. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'était quand j'étais retournée au Cameroun pour la première fois, je parle mon français et on savait du coup que je n'étais pas de là, même si j'étais née, oui, mais je suis au Canada depuis l'âge de 5-6 ans, alors bien sûr, mon accent serait un peu différent, mais c'était un genre... C'était bizarre parce que je me sentais même exclue où je suis née. Et je me sens souvent exclue quand je suis ici aussi. Et ce qui me rend souvent inconfortable aussi, c'est que je vais être dans des milieux peut-être francophones avec d'autres personnes d'immersion et je vais parler mon français. On va dire, oh, mais au moins, tu as un certain accent qu'on peut comprendre ou c'est assez clair. Et j'aime pas ça. Ça me rend inconfortable. Alors, moi, quand on me parle des accents, je dis que comme... Pourquoi? Si j'ai un accent, c'est correct. Ça veut dire peut-être que je parle plus d'une langue et moi, je crois que c'est beau. Et pour moi, on a toujours comparé, mais souvent, c'est drôle parce que moi, j'ai la chance de un peu switch mon accent. Si je me retrouve avec des Africains, l'accent va changer complètement. Je vais un peu parler plus avec certains langages et expressions africaines. Mais souvent, je me retrouve...
Des sons.
C'est ça, exactement. Ah. Même les mains bougent aussi beaucoup. Et je me retrouvais souvent avec mes amis québécois. Et c'est tellement bizarre. Mon accent, ça change complètement. Et je rentre un peu avec les expressions. Mais pour toi, ça a été comment, surtout?
C'était la même chose. même chose. Moi, c'est quand j'ai commencé à voyager, je faisais vraiment un effort parce que le monde ne comprenait pas l'accent franc-ontarien du tout. Et il y a des expressions qui les font encore rire. Hein. Je faisais vraiment un effort pour être comprise. Donc, j'essayais de prendre un français international, comme je disais. D'ailleurs, mes enfants disaient toujours « Ah, tiens, elle s'en va en Afrique » ou « Elle revient de l'Afrique » parce que ça te reste un peu collé à la peau. Puis même ça, tu sais, comme tu arrives en France, même si tu te forces, tu te fais dire « Ah, il est drôle, l'accent québécois. » Ben non, c'est pas québécois, c'est franc-ontarien. Puis, en passant, quand tu dis Acadie, ma fille, tu le dis avec le C acadien, Acadie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Donc, à quelque part, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Acadiens dans ton environnement, mais c'est que je pense qu'on peut se laisser imprégner de toutes ces couleurs-là de notre langue, parce que ça déteint sur notre culture. Et plus je trouve l'accent différent, plus j'ai tendance à tendre l'oreille puis d'essayer de comprendre c'est quoi les racines, tu sais, comme c'est quoi là, qui fait le métissage de cette façon de parler. Tu sais, puis je regarde les mamans africaines là, qui font une...
Oui. C'est ma mère, je retrouve ma mère là-dedans.
Tu dessines ou c'est quoi, quelle forme d'art que tu traduis toute ton énergie dans quelle forme d'art? Moi, ça a été le dessin longtemps, puis toi?
Je dessine, j'écris, je danse, je fais du théâtre, alors un peu de tout. J'adore les devoirs, en fait. Oui, même avant de commencer tout ce qui est politique, plaidoyer, les beaux-arts, c'était mon amour, c'était ma passion. Et c'est en fait comme ça que j'ai commencé à d'abord m'impliquer dans la francophonie, c'était à travers la danse. Et au secondaire, j'ai fait du théâtre. C'est là que je me suis vraiment impliquée, c'était devenir mon amour et j'adore trop. Et je me troublais toujours parce que j'étais comme, OK, maintenant que je suis à l'université, est-ce que c'est plus ce plaidoyer, ce parcours de représenter que je vais faire, ou est-ce, comment est-ce que je peux trouver comment on peut marier ces deux-là ensemble? Et en fait, récemment, j'ai parlé avec certains de mes amis et j'essaie peut-être pendant l'été commencer un projet d'anthologie pour être en mesure de parler des voix oubliées de la francophonie plurielle à l'Ouest canadien. Alors, ce serait juste plusieurs, peut-être, poèmes, récits d'histoire de plusieurs membres de la francophonie de l'Ouest, peut-être racialisés en immersion, qui vont parler un peu de leurs histoires et leurs expériences en situation minoritaire et juste en tant que personne d'expression française. Et je voyais aussi commencer peut-être une petite production théâtrale pour un peu juste être en mesure de voir comment tous ces sujets tabous, peut-être même lorsqu'il concerne la violence sexuelle, l'éducation, etc., comment mettre cela par le biais du théâtre ou par le biais le film et tout cela. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je sais que c'est pas tout le monde comme moi qui va aller dans les livres pour lire, pour apprendre, mais je crois que le théâtre, en fait, c'est un outil qu'on doit être en mesure d'utiliser pour éduquer les autres, pour faire la sensibilisation. Et moi, j'aimerais travailler avec des artistes et des politiciens pour marier ces deux mondes-là ensemble pour créer une société qui est unie et qui est éduquée, en fait. Oui.
Mais les voix oubliées, si jamais ça t'intéresse,
Oui.
on pourrait le penser pan-canadien et on pourrait, tu sais, dans une logique de francophonie plurielle. Pas juste les voix oubliées des personnes racisées. Il y a les voix oubliées des personnes pauvres. Il y a les voix oubliées des personnes violentées. Il y a des voix oubliées des personnes qui sont des laissés pour compte. Ça peut être l'emploi, ça peut être n'importe quoi, là. Mais les voix, parce que en francophonie, on est une francophonie riche. Souvent, on est un establishment dans nos francophonies respectives. C'est souvent ces voix-là qu'on entend tout le temps. Puis c'est du bon monde. Mais c'est du bon monde qui ont vécu ce qu'ils ont vécu et qui sont souvent très loin de ces voix-là oubliées. Et ça m'interpelle beaucoup. Un, le titre, Voix oubliée, mon Dieu Seigneur, j'aimerais tellement ça que on le réfléchisse ensemble, mais qu'on le fasse là, tu sais, en allant chercher de ces voix-là, puis les mettre en lumière, parce que ça fait partie de cette francophonie plurielle. En tout cas, si tu as le goût de le rêver avec moi, j'aimerais bien ça.
Intéresse, s'il te plaît, j'aimerais bien travailler cela. Je crois que ce
Tu n'as même pas
serait
besoin de dire s'il te plaît, parce
non.
que c'est un cadeau que tu
Oh,
me
merci.
ferais. Mais en tout cas, Joanie, nous autres, il faut rester en contact. Honnêtement, il ne faut, faut pas laisser traîner ça. Je pense que c'est quelque chose de vraiment porteur. Les voix oubliées.
En fait, je vais mettre mon numéro dans le chat et comme ça, like, j'aimerais tout de suite commencer à
Oui.
comprendre.
Moi aussi, je vais te le faire.
Non, moi j'ai adoré notre conversation. Franchement, c'était. Je sais pas, ça m'a fait chaud au cœur. Alors, j'ai vraiment.
Contact établi, une production de Franco Presse réalisée grâce à la bourse Enrichir nos communautés d'UNITV. Idéation, montage et réalisation, Mélanie Tremblay. Recherche, Andréane Joly. Promotion et communication, Julia Blonda et Amélie Lafrance. Retrouvez tous les épisodes de Contact établi sur francopresse.ca.